Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver pour toute l'actualité de ce mercredi 23 novembre. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Et donc Pierre qui est de retour. Salut Pierre.
Bonsoir Babette.
Et salut à tous les cinq.
Bonsoir Babette.
Émilie, votre choix d'actu ce soir.
4 buts à 1 et tout s'en va, tous nos doutes, que ce soit hors du terrain ou sur le terrain. C'est ce qu'on a pu vérifier. On était dans un bar pour suivre... La victoire des Bleus face à l'Australie.
Dans un bain ?
Dans un bar ! Dans un bar.
Oui, il y avait beaucoup de Français dans les bars et les cafés. Il y en avait beaucoup devant la télévision. Hein.
Oui.
12 millions de téléspectateurs, un Français sur deux devant sa télé à regarder le match des Bleus. Donc, a priori, rien n'a été boycotté hier. On en parle avec deux spécialistes amoureux du ballon rond. Denis Brognard, qui anime tous les soirs sur TF1 Le Mag, juste après les matchs de la Coupe du Monde. Et puis Patrick Bruel, qui ne pouvait pas s'empêcher de venir nous parler du foot et des Bleus. Par ailleurs, il sort un album, encore une fois, c'est son 9e album. Il sera là avec nous jusqu'à 20h55 et sur la scène de C'est à vous. Mohamed, votre story.
Mayotte est au bord de la guerre civile après la mort d'un jeune homme. Emmanuel Macron s'exprime ce soir dans C'est à vous.
Patrick, votre édito.
Je parlais de posture politique et il n'est pas impossible que notre invité soit concerné.
Ah oui, vous pensez qu'il est dans la posture. Aurélien Pradier, député LR du Lot, secrétaire général des Républicains, est candidat à la présidence de son parti. Les premiers tours du scrutin ont lieu les 3 et 4 décembre prochains. Bonsoir Aurélien Pradier. Merci d'avoir accepté
ce soir notre invitation.
Mathieu dans le 5 sur 5.
Je vous emmène dans l'espace. Enfin, c'est plutôt Sophie Adnaud qui va nous emmener dans l'espace. Vous ne la connaissez pas, on va vous la présenter. Elle a 40 ans, lieutenant-colonel de l'armée de l'air. Et c'est la nouvelle Thomas Pesquet. C'est elle qui a été choisie par l'Agence spatiale européenne. C'est la française de la nouvelle promotion. Ce sera dans le 5 sur 5.
Et on est ravis de faire sa connaissance, Mathieu. Pierre, dans votre œil.
Un portrait d'Anthony Hopkins, extraordinaire comédien, pas psychopathe, pas cannibale, mais pas simple. C'est un document proposé par Arte dimanche soir. Je vous le présente dès ce soir.
Merci Pierre. Encore une fois, c'est le titre de l'album de Patrick Bruel. C'est aussi ce qu'on pourrait dire de notre chef Vincent Favre-Félix. Il est encore une fois aux commandes des cuisines de C'est à vous. On est très heureux. Hein. C'était juste pour faire une transition... Plus ou moins approprié, bienvenue, voilà. Salut Vincent, salut Bertrand.
Bonsoir Babette, bonsoir à tous. Petit message pour Émilie, l'amicale des amateurs de flamenco est très touchée par ta tenue. Le chef un peu moins, puisqu'il lui manque deux torchons, mais bon, c'est un autre débat.
Bonsoir, ce soir c'est une réinterprétation d'un petit déjeuner d'enfance. Donc on sera autour de l'œuf, du Beaufort et de l'Arabica.
Génial, et eh bien merci beaucoup chef, à merci tout à l'heure, bonne émission.
Merci beaucoup, on est très intrigués par l'Arabica et l'œuf, hein, mais on découvrira ce soir, on découvrira ça à partir de 20h30. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, l'édito corsé de Patrick Cohen. Dans votre édito, Patrick, deux exemples de posture politique. Qu'entendez-vous d'abord par posture ?
C'est le contraire de la sincérité. C'est la proposition qu'on agite par souci tactique ou électoraliste. C'est une forme de démagogie. La posture est une imposture qui dégrade la politique et nous fait perdre du temps.
Premier exemple, l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement.
Idée portée par la majorité, par la gauche, par les députés LR. Chacun a son texte. Celui des Insoumis sera d'ailleurs discuté demain à l'Assemblée. Et maintenant, par le Rassemblement national extraordinaire volte-face. Alors qu'au moins deux députés RN, Laure Lavalette et Hervé de Lépineau, ont signé en 2014 une charte réclamant d'abroger à terme la loi sur l'avortement, alors que Marine Le Pen défendait en 2012 le déremboursement de l'IVG pour mettre fin à ce qu'elle appelait des avortements de confort, qu'elle s'est encore opposée il y a quelques mois à l'allongement du délai légal de 12 à 14 semaines, que ces eurodéputés ont voté contre deux résolutions condamnant l'interdiction de l'IVG en Pologne. Voici que Marine Le Pen présente un amendement à la proposition à la fille de Mathilde Panot, dans le but, selon elle, de figer la loi actuelle dans la Constitution et de garantir ce droit fondamental. L'ex-candidate à la présidentielle voyait le piège se refermer. Les votes contre de ses députés sur les autres textes l'auraient isolée et cataloguée anti-IVG, d'où ce coup tactique qui relève de la posture.
Parce qu'elle n'y croit pas, elle n'est pas sincère.
Parce qu'elle présente un texte qui n'a aucun sens. Regardez, il est là, ce texte, il va s'afficher. Le premier alinéa du préambule de la Constitution, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme, est complété par les mots « et aux dispositions du Code de la santé publique qui contient la loi Veil ». C'est-à-dire donc le peuple français est attaché aux dispositions du Code de la santé publique. Mais le Code de la santé publique, il peut être changé à tout moment et par une loi ordinaire. Donc l'amendement Le Pen ne sanctuarise rien du tout. Il ne dit rien de sa pensée sur l'IVG, mais beaucoup de ses arrière-pensées.
Autre exemple, la loi sur les énergies renouvelables.
Votée par le Sénat à la quasi-unanimité, on en avait parlé ici, dans un mouvement assez remarquable et rare, les sénateurs de droite, du centre et de gauche avaient quitté leur posture politique pour trouver un compromis sur une question cruciale et urgente, le développement accéléré des renouvelables éoliens et solaires en mer et sur terre. Compromis que les députés ont commencé à détricoter en commission aujourd'hui et que vous avez, Monsieur Pradier, vivement reproché à votre concurrent, chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau.
Le Sénat n'aurait pas dû céder. Vous n'auriez pas dû, les sénateurs, les Républicains, négocier avec le gouvernement ce point d'accord parce qu'il est très insuffisant. Nous devons mettre un stop immédiat au développement de l'éolien. C'est un non-sens économique, environnemental et énergétique.
Pas d'éolien du tout.
Non, je ne souhaite plus que nous allions dans cette course en avant de l'éolien et je souhaite même qu'on commence à réfléchir au démontage de nos éoliennes parce que cette énergie transitoire aura besoin un jour d'être démontée.
Ça n'est pas raisonnable de refuser les énergies renouvelables.
Un stop immédiat des éoliennes en vue d'un démontage, est-ce bien raisonnable, demande Retailleau.
Vous pensez que c'est là encore une posture ?
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, le développement des renouvelables, c'est une obligation légale. La France et l'Europe s'y sont engagées dans le cadre de l'accord de Paris. Alors, on peut toujours changer la loi, bazarder les traités et nos engagements internationaux. Après tout, c'est ce que les Britanniques ont fait pour le Brexit. Mais ça ne change pas le fond du problème. Sans essor des renouvelables, il ne sera pas possible d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit noir sur blanc dans l'étude de RTE, le gestionnaire du réseau électrique, paru il y a un an. Même le scénario le plus nucléarisé, avec le plus de centrales possibles, qui j'imagine à votre préférence, M. Pradier, avec l'ajout de 14 réacteurs EPR et de plusieurs mini-réacteurs d'appoint, implique un fort investissement dans le renouvelable parce que nos besoins en électricité vont exploser dans les décennies à venir. Et donc, à moins que vous soyez un partisan de la sobriété et de la décroissance, mais ça m'aurait échappé, dire qu'on va stopper les éoliennes et les démonter, cela peut plaire à vos électeurs, mais je crois que ça revient à les tromper. Une posture ne fait pas une politique.
C'est une posture, Aurélien Pradier, une stratégie politique pour vous démarquer et du gouvernement et de Bruno Retailleau, l'un de vos deux adversaires pour la présidence LR.
Non, c'est une conviction ancienne, et d'ailleurs constamment, depuis plusieurs années, avant même d'être candidat à la présidence des Républicains, j'ai toujours été opposé aux éoliennes et je peux vous expliquer pourquoi.
Non, mais quelle est votre solution alors?
Je vais vous la donner. D'abord expliquer pourquoi.
À la neutralité carbone.
Les éoliennes ne sont pas la solution. Aujourd'hui, c'est un modèle économique qui ne fonctionne pas. C'est dégradant pour nos paysages. Je le vis dans ma propre région. Et quand on est protecteur de l'environnement, on est aussi sensible à la question des paysages. Et j'ajoute un point. C'est qu'en effet, c'est une énergie transitoire. Nous savons très bien que lorsqu'on aura passé le cap, il nous faudra démonter les éoliennes. Lorsque je dis qu'il nous faut déjà réfléchir au démontage, y compris les spécialistes le disent. Parmi les énergies renouvelables,
toutes les installations sont transitoires, y compris les centrales nucléaires.
Mais elles le sont beaucoup moins que le sont les éoliennes. Mais parmi les énergies renouvelables, il y en a une dont vous ne parlez pas. C'est la question de l'eau. Ce sont les barrages hydroélectriques. Et j'ai fait des propositions en ce sens.
C'est la deuxième énergie renouvelable en France, 10%.
C'est la plus importante. Nous pourrions, si nous réinvestissions aujourd'hui dans nos barrages hydroélectriques, aller jusqu'à 20% de production supplémentaire. Et soyons très concrets sur ce sujet.
J'ai entendu là-dessus, vous voulez créer de nouveaux barrages, c'est ça que je ne comprends pas.
Non, vous ne m'avez pas écouté.
Bah, si, je vous ai écouté attentivement et je n'ai pas compris comment on peut augmenter la production hydroélectrique avec un nombre fini de barrages.
Je vais vous réexpliquer. Aujourd'hui, nous sommes capables, si nous réinvestissons dans la qualité de nos barrages, de surproduire 20% d'énergie de plus. Il se trouve que depuis près de 10 ans, on n'investit plus dans nos barrages pour une raison simple, c'est que l'Union européenne nous a demandé de mettre en concurrence nos barrages et que EDF, qui a aujourd'hui principalement le monopole, n'investit plus en attendant cette mise en concurrence. Il nous faut reprendre le monopole stratégique d'État sur les barrages, réinvestir, faire de la recherche. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer ce qu'on appelle les microturbines qui permettent au pied des barrages, dans des petits cours d'eau, de faire de la production électrique. Mmh. Les barrages, il y a un autre avantage, à la différence de l'éolien, c'est qu'on peut stocker l'énergie. Lorsque vous avez un pic de besoin énergétique en électricité, l'éolien, vous ne pouvez pas le faire tourner s'il n'y a pas de vent, pour être simple. Les barrages, vous pouvez les libérer. Je ne veux pas en créer davantage, je veux qu'on les restructure et qu'on réinvestisse. Ne me faites pas dire que je suis hostile aux énergies renouvelables. Ce que je veux simplement, c'est qu'on ne se dise pas que la seule option des énergies renouvelables, c'est l'éolien. D'accord. Ça, c'est de la posture politique.
Je vous signale au passage que l'hydraulique, ça figure dans la loi qui va être discutée à l'Assemblée nationale, qui a été modifiée par le Sénat, avec la possibilité de réactiver les petites unités, les moulins, les vieux moulins,
etc. Mais Patrick Cohen, sur ce point-là...
Et vous voulez voter contre ?
Non, c'est pas vrai. Non, mais écoutez, je vais vous dire ce que je pense.
Le groupe LR a l'intention de voter contre.
Non, j'ai dit très clairement que je m'opposerai à tout ce qui poussera au développement de l'éolien et je défends constamment depuis des années l'hydroélectrique qui est un héritage extrêmement puissant pour notre pays, que nous devons remettre au goût du jour et qui est une vraie énergie renouvelable. Il ne faut pas s'obséder sur l'éolien comme si c'était l'alpha et l'oméga, non, ça ne l'est pas.
Ce qui est étrange, c'est qu'on voit des députés LR qui détricotent une loi approuvée par des sénateurs LR. C'est une drôle d'image qu'on donne à quelques jours d'élection aux adhérents LR.
Ce n'est pas la première fois que nous avons des désaccords. Mm. Et ce n'est pas une posture, je vous l'assure, c'est une vraie conviction. Historiquement, j'ai toujours été opposé à l'éolienne, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets. Oui, je suis favorable au nucléaire, mais pas seulement. Je pense qu'une fois de plus, l'hydroélectricité est absolument essentielle. Et sur l'éolien, constamment, j'ai dit que j'y étais défavorable. Et j'ai dit à mon collègue Bruno Retailleau qu'ils avaient commis une erreur en cédant face au gouvernement. Je dis aussi des vérités, de temps en temps, ça fait du bien en politique. Ce ne sont pas des postures, ce sont des convictions.
Bon, j'attends les rapports d'expertise là-dessus qui permettraient de compenser.
Et je reviendrai en débattre avec vous, avec joie.
La force éolienne.
Vous êtes donc trois avec Bruno Retailleau et Éric Ciotti en lice pour l'élection du président des Républicains. Premier tour, je l'ai dit, les 3 et 4 décembre. 10 et 11 décembre pour le deuxième tour, s'il y en a un. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire après la publication d'articles selon lesquels l'ex-épouse d'Éric Ciotti a accumulé plusieurs emplois pendant près de 10 ans. Une information que Bruno Retailleau a commentée ainsi ce matin.
Le seul commentaire que je m'autoriserai à faire, c'est que la justice en France est indépendante, mais elle doit être aussi impartiale. Et quand on choisit ce type de calendrier à quelques jours d'une élection, qui est une élection importante, évidemment, on prête le flanc aux critiques et notamment aux doutes.
Ça vous rappelle l'affaire Fillon que vous avez vécue au premier plan ?
Bien sûr, parce que là encore, il y a eu un calendrier électoral qui a été bousculé, une sorte de guet-apens judiciaire à l'époque.
Vous aussi, vous pourriez parler de guet-apens judiciaire ?
Non, je n'ai jamais prononcé ces mots. Éric Ciotti est un ami, comme Bruno Retailleau. Moi, j'ai un principe simple dans la vie politique comme dans la vie tout court, qui est de défendre mes amis. Maintenant, il faut que la justice fasse son travail.
Mais dire la justice est indépendante, mais est-ce que c'est quand même une accusation grave à l'égard de la justice ?
C'est d'ailleurs pour cela que vous ne m'avez pas entendu le dire. Mm. Je sais ce que je pense de ce calendrier-là. Je ne le trouve pas très positif, y compris pour l'impartialité de la justice. Mais je suis député de la nation. Et lorsqu'on est député de la nation, avant même d'être engagé dans un parti politique auprès d'amis, on est député de son pays. Et je ne souhaite pas remettre en cause les institutions judiciaires parce que je sais que c'est un doigt qu'on met dans un engrenage qui nous échappe ensuite. Je suis protecteur des institutions. Je souhaite de toutes mes forces que le parquet national financier fasse son travail, qu'il le fasse bien en toute neutralité parce que s'il était soumis à un calendrier politique, c'est la justice elle-même qui le paierait cher, d'abord avant même les responsables politiques. Et puis ce que je souhaite, c'est qu'on en finisse, qu'on passe à autre chose. L'épisode Fillon, pour moi, ce n'est pas un bon souvenir. Mm-hmm. Je l'ai vécu douloureusement, moralement, politiquement, humainement. J'étais un militant, j'ai souffert sur le terrain de voir qu'il y avait un écart entre ce que nous prenions et puis les actes, ce qui pouvait être dévoilé. Et je veux que nous passions à autre chose. Si la droite veut se reconstruire, elle doit se reconstruire sur des idées nouvelles, mais elle doit aussi se reconstruire en tournant les pages de ce qui nous poursuit depuis des années et qui sûrement ne contribue pas à ce que les citoyens nous fassent confiance, mais qui globalement dégrade la politique. Et j'aime trop la politique pour avoir envie de la dégrader.
L'un de vos collègues députés, l'élu insoumis Adrien Quatennens, n'a plus siégé à l'Assemblée nationale depuis la mi-septembre, après avoir reconnu dans un communiqué des violences à l'encontre de sa femme. Le 13 décembre prochain, il sera entendu par un procureur dans une procédure dite de plaidé coupable. Son épouse a elle aussi publié un communiqué aujourd'hui. Elle dénonce des violences physiques et morales depuis plusieurs années. Adrien Quatennens a démenti cet après-midi ces nouvelles accusations, mais est-ce qu'il peut, en l'état, revenir à l'Assemblée nationale ?
Je ne le crois pas. je ne suis pas procureur et je n'ai pas envie de l'être. Ce n'est pas à moi de faire l'enquête. Je suis très engagé sur ces questions de lutte contre les violences faites aux femmes.
Oui, vous avez déposé en octobre une proposition de loi.
Oui, la loi qui a été votée déjà il y a quelques années sur la généralisation du bracelet anti-rapprochement, votée à l'unanimité. À l'époque, je pense qu'Adrien Quatennens l'avait votée d'ailleurs. C'est celle que j'ai portée. J'ai peu apprécié ou été très mal à l'aise avec ses premières déclarations lorsqu'il disait qu'il n'y avait eu qu'une claque, qu'une gifle. Moi, je n'ai jamais fait de distinction entre une gifle, deux gifles, trois gifles, une petite gifle et une grosse gifle. Depuis le début, je suis très mal à l'aise avec cette situation. Ce que j'ai lu des déclarations de son ex-compagne ce matin me pousse à dire qu'il lui était impossible de revenir à l'Assemblée nationale.
Ni pour, définitivement
à ce stade, je ne vois pas comment il peut revenir. Mais la seule manière de ne pas y revenir définitivement, c'est de prendre une décision beaucoup plus forte politiquement. C'est de démissionner. On ne peut pas être entre deux eaux, on ne peut pas être un fantôme à l'Assemblée nationale. Et oui, le courage politique, le drame de la politique aussi, c'est que lorsqu'on s'engage pour ses concitoyens, on a un devoir qui d'être à la hauteur de cette mission et que lorsqu'on fait un pas de côté, lorsqu'on commet une faute, eh bien on doit en tirer toutes les conséquences, y compris la démission. Qu'on soit clair, s'il ne revient pas à l'Assemblée nationale pendant plusieurs mois, c'est qu'il doit démissionner. On ne peut pas rester entre deux eaux comme c'est le cas aujourd'hui. Puis disons les choses encore plus clairement, Adrien Quatennens, il appartient à une famille politique qui a fait de ce sujet un totem, qui a fait de ce sujet un étendard politique. Et donc je ne vois pas comment, y compris ses propres amis politiques, pourrait l'excuser.
Cet après-midi, Emmanuel Macron était au Salon des maires à Paris. Il a réagi face à la montée de la violence à l'égard des élus. 63% d'entre eux déclarent avoir été victimes d'incivilité contre 53% en 2020, selon une enquête du CEVIPOF publiée cette semaine. On écoute les mots d'Emmanuel Macron au micro de Mohamed Bouabsi.
C'est pour moi un de nos combats essentiels aujourd'hui. Lutter contre cette violence et de dire, dès que la violence s'installe, c'est inadmissible. Il n'y a même pas à savoir si elle est légitime ou pas. Elle est inadmissible. Parce qu'en démocratie, le processus de civilisation, c'est que la violence n'a pas lieu d'être. Parce que vous pouvez choisir vos maires, vos dirigeants nationaux, qui fera les lois, qui... Le choix est libre. Vous pouvez vous exprimer librement. Et si on veut garder nos trésors, que sont la liberté de vote, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, nous devons tous éradiquer la violence sous toutes ses formes. C'est le combat du moment.
Éradiquer la violence sous toutes ses formes. On pense aussi à l'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur dans le Pas-de-Calais. Comment faire, Aurélien Pradier?
D'abord, j'ai une pensée pour la famille de cet agent. C'est un fonctionnaire de notre pays. Être assassiné dans des conditions pareilles, c'est une réaction que l'ensemble des représentants de l'État, de la nation, doivent avoir unanime. J'ai été maire durant des années de ma commune. Je suis le seul des trois candidats à avoir été maire. Ça m'a beaucoup marqué, ce mandat. Parce que je sais que c'est un mandat dans lequel vous ne pouvez pas tromper. Vous devez dire la vérité à vos...
Et vous avez été confronté à des incivilités?
Oui.
À la violence?
La violence, non, pas personnelle. Des incivilités, oui. C'était d'ailleurs un peu mon quotidien de maire, de devoir les régler, les organiser, faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. Les violences, parfois, verbales, parce que lorsque vous êtes maire, vous êtes le réceptacle de toutes les douleurs de la société. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué dans mon parcours politique aussi, de mon rapport aux concitoyens. Emmanuel Macron devrait se poser une autre question. Il a raison de dire qu'aucune violence n'est légitime et acceptable dans des conditions pareilles. Je n'ai jamais vu mon pays aussi fracturé qu'aujourd'hui. Depuis des années, le politique, y compris parfois Emmanuel Macron, a pris soin, pour des raisons souvent tactiques de posture politique, de dresser les uns contre les autres. Je ne dis pas qu'il est responsable des violences que nous connaissons aujourd'hui, mais cette méthode politique qui a été pratiquée par les uns et les autres, qui consistait à dresser les jeunes contre les moins jeunes, les riches contre les plus pauvres, ceux qui travaillent contre ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont vaccinés contre ceux qui ne sont pas vaccinés, tout ça a créé un état de fracturation de notre société qui est absolument terrible. Et le grand défi des politiques aujourd'hui, c'est de recréer ce qu'on appelle la cohésion de la nation.
À quel moment Emmanuel Macron a dressé les vaccinés contre les non-vaccinés?
Lorsqu'il a expliqué qu'il voulait emmerder ceux qui n'étaient pas vaccinés. Je suis désolé, mais c'est une parole qui n'avait rien à faire dans la bouche d'un président de la République. Je ne fais pas le lien entre cela et les violences. Je dis simplement que nous tous, y compris moi, lorsqu'on tient des propos qui sont plus brutaux, lorsqu'on cherche à mettre de côté une partie de nos concitoyens parce qu'ils n'auraient pas fait les choix politiques que l'on voudrait, alors on contribue à cette exaspération. Puis il y a autre chose, c'est l'accès à nos services publics. Dans les territoires les plus ruraux aujourd'hui, il vous faut parfois plusieurs mois pour avoir accès à un médecin généraliste. Je peux vous assurer que moi, je le vois dans ma circonscription, je l'ai vu comme maire. C'est une des raisons de colère les premières, parce qu'on a le sentiment d'être dépossédé de tout dans ce pays.
Vous avez refusé toutes les mesures contraignantes pour envoyer les médecins dans les zones rurales?
Non, j'ai fait des propositions.
Non, LR, la droite en général, a refusé ces dernières années toutes les propositions qui visait à contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux.
Vous aurez remarqué que je ne m'appelle ni Éric Ciotti, ni Bruno Retailleau, ni même
vous
LR.
Vous représentez un parti politique.
Aurélien Pradier. J'ai défendu moi-même, avec certains de mes collègues dans ma famille politique, une proposition pour faire en sorte que sur la dernière année de médecine, sans en rajouter une année, nos jeunes médecins, sur leur dernière année de formation, fassent des stages obligatoires, des missions obligatoires, oui, dans nos territoires. C'est une proposition que j'ai portée, y compris avec notre candidate à l'élection présidentielle. Et donc oui, sur ces sujets, il nous faut apporter des solutions. Tant que la politique sera impuissante, elle fracturera, parce que c'est sa seule porte de sortie. Et tant qu'elle sera impuissante, elle nourrira une fracture et une déconnexion démocratique. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, en métropole comme en Outre-mer, est révélateur du fait qu'on a incroyablement besoin que les politiques soient à la hauteur.
Réconcilier les Français, comme vous dites, est-ce que cela doit passer par l'uniforme à l'école ?
J'ai sur ce sujet beaucoup évolué. Je vous parle très librement. Je vois à quel point nous avons aujourd'hui dans nos écoles, et je l'ai vu dans mon expérience de maire, deux sujets, celui des intrusions religieuses, c'est une vérité. Moi, je n'accepte pas qu'à l'école, au collège ou au lycée, on puisse porter un vêtement religieux, quel qu'il soit. Et donc j'ai proposé que, école, collège et lycée, nous ayons une tenue unique, qui soit un uniforme, et je ne pense pas que ce soit un problème, y compris pour gommer ce que sont aujourd'hui des inégalités sociales. Moi, je l'ai vu dans ma salle de classe de mon école, de mon village. Au premier coup d'œil, j'arrivais à repérer le petit gamin venu d'un milieu favorisé ou d'un milieu défavorisé. Ensuite se pose une autre question, celle des universités. Je me suis exprimé sur le sujet dans le débat.
Parce que vous vouliez aussi imposer la tenue, enfin imposer la tenue unique à l'université.
C'est pas tout à fait ce que je voulais. C'était dans le cadre du débat, j'avais 5 secondes pour répondre. Je suis sûrement pas quelqu'un de parfait, donc ça m'arrive parfois de ne pas être extrêmement clair. Ce que je dis simplement, c'est qu'à l'université, je veux que demain, que nous armions légalement nos présidents d'université pour interdire le voile et tout signe religieux. C'est une première étape. La deuxième étape, c'est de dire au président de l'université, si demain vous souhaitez qu'à des moments particuliers, notamment au moment de la remise des diplômes, au moment de l'examen, il y ait une tenue qui soit une tenue d'appartenance à l'université ou à la grande école, il n'y a pas de problème pour que vous le fassiez. Et je veux vraiment dédramatiser ce débat, parce que j'entends depuis quelques jours, on me dit, Aurélien Pradier, il veut imposer l'uniforme à l'université. Ce n'est pas ce que je souhaite.
Oui.
Je souhaite simplement qu'on protège.
On se demande si c'est vraiment applicable,
surtout. Y compris de ces incursions. Interdire le voile et les signes religieux, ça l'est. Pour le reste, il faut nos progressions. Vous savez, le vêtement, c'est aussi un sentiment d'appartenance, de corporation, y compris dans nos universités. Et aujourd'hui, ça existe parfois.
Mais un sweatshirt à l'uniforme, ça peut être la solution à la crise de la laïcité.
Sûrement pas tous les jours. Et c'est sûrement pas la seule solution, notamment pour nos universités. Une fois de plus, j'ai répondu en quelques secondes. Je veux dédramatiser ce sujet. Je pense que ce n'est pas inutile. Je vais donner un élément historique. En Turquie, l'héritage de la Turquie d'Atatürk, celle qui s'est laïcisée profondément, une des décisions qui avait été prise dans les années 80 était d'interdire le voile à l'université, dans la Turquie laïque. Une des premières décisions d'Erdogan, lorsqu'il revient au pouvoir, c'est de faire sauter cette interdiction du voile pour que le voile réapparaisse à l'université. Oui, la présence du voile et des signes religieux, ça n'a pas sa place dans un lieu d'émancipation comme les universités. Voilà ce que je voulais dire.
Vous avez parlé de la violence, et notamment en Outre-mer. Il est question de Mayotte. C'est l'objet de la story de Mohamed Bouafsi. Flambée de violence à Mayotte. Mohamed, vous nous en parlez ce soir.
Oui, depuis une dizaine de jours, Mayotte est au bord de la guerre civile. Mamoudzou, la plus grande ville de l'île, département français de l'océan Indien, est secouée par de violents conflits interquartiers. Le 12 novembre dernier, un jeune homme a été sauvagement assassiné à la machette. Depuis, les incidents violents se multiplient et l'attaque d'un bus scolaire a fait plusieurs blessés.
Des morceaux de verre un peu partout et certaines des pierres utilisées par les malfaiteurs. Ils étaient aussi armés de machettes. Voici les blessures du conducteur. Plusieurs jeunes passagers ont aussi été touchés.
Le bus s'est arrêté à Pezo. Ils ont sorti des machettes et des marteaux. Ils ont tout cassé, les vitres à Pezo rentrées.
Des nuits entières à éteindre des véhicules en flammes. Les forces de l'ordre parlent d'une guérilla urbaine.
À chaque jour, son nouveau drame. Mercredi dernier, plusieurs enfants ont reçu des coups de machette. Samedi, la police a dû intervenir lors d'une émeute entre plus de 400 jeunes. Et dimanche, un automobiliste a été poignardé. Pour le maire de Mamoudzou, que j'ai rencontré cet après-midi avec Anaïs Recouli, l'île est victime de terroristes.
Des voyous, des terroristes ont décidé de prendre le pouvoir. Les gens ne vont plus travailler, les gens ne vont plus à l'école parce qu'ils se font assassiner. Ils se font agresser, ils se font violenter. Quand vous avez des hordes d'hommes qui se cagoulent qui viennent avec des machettes, qui tuent des enfants, qui les prennent, qui les exposent à même le sol, par terre, sur la route, comme des trophées, ce n'est rien d'autre que du terrorisme.
Face à cette multiplication des attaques, une dizaine de policiers du RAID, l'unité d'intervention d'élite de la police, sont arrivés hier à Mayotte, où une personne sur deux est de nationalité étrangère. Pour Emmanuel Macron, cette violence s'explique notamment par la pression migratoire qui s'exerce sur l'île.
D'abord, je veux dire ici notre soutien intégral aux élus et à la population mahoraise. Ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'on le sait, on a une pression migratoire depuis plusieurs années qui est très forte sur Mayotte, qui est liée à la configuration géographique et politique. Les Mayotte et les Comores. Bon. Et en particulier, beaucoup de départs depuis en juin, avec des gens qui arrivent en situation de grande pauvreté et de grande détresse, mais qui arrivent sur notre territoire, qui sont pris en charge, les enfants sont scolarisés, etc. Mais c'est devenu insoutenable pour la population. Et donc on va mettre plus de moyens aussi militaires en mer pour pouvoir éviter les arrivées, mais il faut stopper les départs, parce que c'est pas en mer qu'on peut refouler dans des conditions qui seraient beaucoup trop difficiles d'un point de vue humanitaire. Et donc c'est un travail vraiment pour stopper ces phénomènes migratoires et démanteler ces réseaux.
À quatre reprises, depuis 1958, Mayotte a fait le choix du rattachement à la France. Dès lors, le maire de Mamoudzou réclame les mêmes droits pour ses administrés qu'en métropole.
En 1841, les Mahorais ont choisi la France. En 1974, 77, 75, lors des différents référendums, consultations, les Mahorais ont choisi la France. En 2009, les Mahorais ont répondu oui à la départementalisation avec le seul et l'unique leitmotiv. Nous voulons être français pour être libres. Aujourd'hui, les Mahorais ne sont pas libres et nous demandons juste ce que nous soyons libres, donc nous soyons en sécurité.
Même si le RAID a été envoyé en urgence à Mayotte, Emmanuel Macron explique que la situation sur place ne peut se résoudre seulement sur une réponse sécuritaire.
C'est tous nos services publics et le modèle français qui est en train d'être bousculé à Mayotte. Vous avez des maires, des fonctionnaires de l'éducation nationale, des instituteurs, des institutrices, des enseignants héroïques qui ont eu des rentrées avec parfois des nombres d'élèves qui a doublé ou triplé en cette rentrée. C'est impossible, même si on met plus de moyens, les choses vont trop vite, et donc face à ce phénomène, on va avoir une réponse. D'abord, sécuritaire très rapide, ensuite de coopération, mais avec beaucoup de force. J'en ai parlé ces derniers jours avec le président des Comores. Et puis troisièmement, on doit poursuivre le travail en profondeur de réforme sur Mayotte, parce qu'on voit bien que aujourd'hui notre situation, nos règles, doivent être adaptées face à la réalité du terrain.
Sur la situation à Mayotte, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron ?
Il y a de nombreuses années que notamment mon collègue député Mansour Kamardine dénonce la situation en disant que c'est ingérable pour des questions principalement migratoires que tout le monde constate et dont tout le monde convient. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait ? Nous avons fait d'ailleurs nombreuses propositions sur ce sujet en matière migratoire en disant que nous allions vers une saturation migratoire qui allait poser un problème sécuritaire.
La position déjà la plus plusieurs retentissante, années. C'était celle de Barouin qui proposait de supprimer le droit du sol pour les
Et vous avez vu la situation.
C'est-à-dire de faire en sorte que les.
À Mayotte. À Mayotte, en effet.
Les Comoriens qui naissent sur le sol de Mayotte ne soient plus français.
Exactement. Et si nous l'avions fait, nous n'en serions sûrement pas là.
Vous soutenez cette idée.
Bien sûr. Mais vous voyez la situation dans laquelle nous sommes.
Donc on supprime le droit du sol dans un département français.
Oui, et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire parce que c'est une situation particulière. On a d'ailleurs beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous voyez la conséquence. C'est une guerre civile. Ce qui se passe à Mayotte, nous ne le tolérerions nulle part en métropole. Nulle part. Et aujourd'hui, ce sont les populations qui sont en train de souffrir de manière incroyable, jusqu'à la mort pour certaines d'entre elles. On ne peut pas considérer que parce que c'est loin de nous, ce soit acceptable. Donc oui, en effet, les propositions qui étaient notamment portées par François Baroin à l'époque, sur ces propositions, nous avions raison. Il faut qu'Emmanuel Macron passe un peu des constats assez laconique aux actes, parce qu'aujourd'hui, nous en sommes à la nécessité des actes.
Donc là, clairement, on assume le lien entre délinquance et immigration, alors que ça fait des années, effectivement, que l'île de Mayotte est en proie, en tout cas, accueille des Comoriens. Là, la violence, ce sont des violences entre bandes rivales, c'est assez inédit aujourd'hui.
Oui, c'est pas
si... Ça ne peut pas être expliqué que par l'immigration.
Il faut être honnête. Sur ce sujet-là, nous avons un lien très clair entre la surcharge migratoire de ce territoire et la question sécuritaire. Et chacun en convient, y compris d'ailleurs tous les élus qui, à l'époque, n'étaient pas absolument certains de cela sur le territoire, vous le disent, il y a un lien évident. C'est un petit territoire qui est absolument saturé aujourd'hui. Et nous avons des montées de violence qui sont très clairement liées à cette politique migratoire qui n'est pas maîtrisée, pas contrôlée, et dont les conséquences sont aujourd'hui absolument dramatiques. Mais ce qui se passe à Mayotte est loin de ce qui se passe chez nous. Mais néanmoins, nous devons tirer des enseignements de Mayotte. Si on ne prend pas des décisions courageuses dès le départ en matière migratoire, on a les pires situations à gérer ensuite.
À la une également de l'actualité, deux chiffres. 4-1. 4 buts à 1 pour la France face à l'Australie, Émilie.
Oui, 4 buts à 1 et tout s'en va. Les doutes, les critiques aussi. Pourtant, encore quelques minutes avant ce match, on pouvait s'interroger, j'appellerais ça les 3 B, le boycott, les blessures ou les bleus. Un trio infernal pour la conscience des supporters qui était tiraillé. C'est ce qu'on peut mesurer juste avant le coup d'envoi, Louis Amar et Audrey Payas dans un bar.
Cette Coupe du Monde, elle est un peu particulière. Un peu
elle est un peu particulière.
Non.
Si.
Non.
Si. Bah, peut-être c'est parce que c'est au Qatar. Je sais pas.
Mais je pense que c'est plutôt par rapport à l'absence de Benzema.
Il y a quand même un côté où le mondial, la façon dont ça s'est amené, je préfère en rester un petit peu plus loin que d'habitude. Il a pas le même goût que les autres, on va dire.
Est-ce que vous avez hésité à boycotter ce mondial ?
C'était pas à nous de subir les décisions qui ont été prises il y a 10-15 ans, donc non, pas une minute.
J'ai hésité un petit peu. On vit le mondial comme supporter hein, et on n'est pas décisionnaire.
Disons qu'on boycotte les matchs qu'on veut pas regarder, donc c'est un boycott un peu tranquille. C'est allez, pas un vrai bokeh.
Ouais, un boycott un peu tranquille, mais ça c'était avant que l'Australie inscrive le premier but, avant qu'Adrien Rabiot rattrape le goût en égalisant, avant qu'Olivier Giroud confirme avec un deuxième but, que Kylian Mbappé marque de la tête et puis le doublé d'Olivier Giroud, 4 buts à 1. Et autant de temps fort, on a quand même retenté la question du boycott après ça.
On est content de pas avoir boycotté, non ?
On est très bien, la France elle a gagné maintenant. Allez, on est très très contents.
Ouais, on est très contents.
Hein. De toute façon, ça valait le coup.
On n'est pas dans l'équipe boycott depuis le début. Hein.
On a bien fait de pas boycotter. Bah après, faut. Je sais pas.
Mais c'est une.
Allez les bleus,
victoire.
On est tous ensemble. C'est le grand jeu. La France est debout.
Difficile de rater ça. Dans le sport, la performance nourrit l'engouement, phénomène confirmé par l'audience d'ailleurs massive pour ce premier match des Bleus, près de 13 millions, 12 millions et demi de spectateurs. Une personne sur deux qui était devant la télé y était donc pour suivre ce match et parmi eux, un des plus grands fans de foot de France.
Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud. Allez monsieur,
allez monsieur,
allez monsieur, mesdames et messieurs, la France sera une fois de plus
champion. France, lève-toi.
Salut Patrick.
Vous avez des espions dans votre...
Exactement, on ne vous demande pas ce que vous faisiez hier soir, ni quel est votre pronostic pour cette Coupe du Monde 2022. Mm-hmm. Denis, vous êtes invité uniquement
vous quand même.
Pour calmer les ardeurs de Patrick.
Non mais pour discuter, hein, en vous attendant, on était passionnés,
vous en avez un peu gardé pour nos téléspectateurs.
Ah, ben, vous inquiétez pas.
Vous qui débriefez tous les soirs, chaque match, dans le mag sur TF1. Encore une fois, Patrick, c'est donc le titre de votre album et ça pourrait s'appliquer à l'équipe de France. Vous y croyez ? Encore une nouvelle étoile ?
Ben oui, je vais changer un mot à la chanson et ça marche. Hein, encore une fois, encore plus fort. On peut encore aimer, on va dire on peut encore gagner, encore une fois. C'est très possible. La France, en tout cas, a toutes les raisons d'aller jusqu'à la finale contre peut-être un Brésil qui sera peut-être difficile à battre. Mais à part ça, je ne vois pas bien qui peut empêcher la France de gagner une nouvelle étape.
Ouais, mais la vérité, c'est que vous aviez parié 4-1, le score. Et puis tout d'un coup, l'Australie a ouvert la marque et Patrick a dit « Oh ben non, finalement 3-1 !» Ah oui, c'est dire si
tout... Mais vous savez tout.
Exactement.
C'est vrai que voilà. J'étais sur 4-1.
On n'a pas le droit de changer en cours de match.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on avait fait les paris, mais quand on est arrivé tout le monde est arrivé en retard, les paris, on n'avait pas pu les commencer. Ah, il y a eu le premier but. Tout le monde a dit « Ok, vous avez le droit de changer vos paris ». J'ai dit « Bon, bah, alors moi, je vais enlever
oui,
un
but. » Petit
mais
je
n'avais pas de doute quant à la victoire.
Ça veut dire qu'on s'est fait peur, quoi. C'est ça, bah, Denis, la morale.
On s'est fait peur pendant une dizaine de minutes, mais on a surtout été complètement chamboulés par la nouvelle blessure, parce que c'est la guigne, quand même. Lucas Hernandez qui se blesse, qui se pète les croisés. Mais on sentait quand même qu'il y avait un vrai potentiel. On n'a pas eu peur longtemps en ce qui concerne le score. On est maintenant inquiet quant au côté gauche de cette équipe de France, parce qu'il reste un frère Hernandez, Théo, mais derrière, il n'y a plus de gaucher.
C'est-à-dire que Théo Hernandez est le meilleur joueur du monde à ce poste. Et avec son frère, il partage cette place. Et son frère aurait pu, dès le début, jouer dans l'axe. C'était ça sur lequel on s'est un petit peu interrogé.
On va le prendre comme consultant. On va le prendre comme consultant.
Ah, mais je ne comprends pas que vous n'y ayez pas pensé. Hein. Mais nous, on y a pensé.
Non, mais bon, voilà. Aujourd'hui, on cherche un invité à chaque fois.
Aujourd'hui, on peut juste être triste pour Karim Benzema, qui va pas jouer cette Coupe du Monde, alors que vraiment tout...
C'est à nouveau un rendez-vous manqué.
Oui, c'est un rendez-vous manqué pour lui.
Karim Benzema et la Coupe du Monde.
Mais c'est vrai que c'est pas des postes sur lesquels on est en manque. L'attaque française est très très forte et elle saura s'adapter à ça. Le milieu de terrain, en revanche, l'absence d'N'Golo Kanté, peut-être qu'on va le payer à un moment donné. Ouais, mais j'avoue qu'hier,
Rabiot, quand même,
ça a été formidable.
Rabiot, formidable match.
Un but, une passe décisive.
Exactement.
Oui, Rabiot, c'est ça que j'ai aimé, parce que c'est un joueur très discret dans la vie de tous les jours. Et en conférence de presse, il est arrivé en disant « Mais moi, je ne cherche pas à être un leader dans la vie, je voudrais être un leader sur le terrain. » Et je pense que ce match d'hier sera un match référence pour lui, parce qu'il a été capable non seulement de marquer, de faire une passe décisive, et entre guillemets de faire un peu oublier les grands absents, Pogba et Kanté.
Pogba, je suis d'accord, mais sur Kanté, c'est le rôle défensif de Kanté qui est très important, mais qui a été quand même très bien pris par...
L'autre homme du match, Olivier Giroud, on voit le bonheur que vous avez ressenti au moment de son 51e but, voilà, en équipe de France. Il égale le record de Thierry Henry.
Il en a entendu des trucs, Giroud, qui n'était pas toujours très agréable.
Exactement, il revient
de loin. Quelle belle revanche sur le terrain.
Il ne jouait plus en équipe de France, Didier Deschamps l'avait laissé de côté. Et puis, il s'est reconstruit à Milan, dans son club. Il est devenu titulaire, presque indiscutable. Il a marqué beaucoup de buts. Et je trouve que c'est une histoire incroyable. Hier, nous, dans le mag, on avait sa femme, ses 4 enfants, enfin c'est une belle histoire avec beaucoup de sérénité.
Oui, il n'a jamais perdu espoir.
Non.
Il nous en parlait.
C'est un bel exemple. Il a 36 ans passé. Et il est encore là en équipe de France. Il marque 2 buts.
Vous voulez caser le fait qu'il avait été notre invité il y a un an dans C'est à vous et qu'il nous avait parlé du fait qu'il ne perdait pas espoir. Vous allez voir, c'est quasiment, on sentait ce qui allait arriver.
Ah bon, je n'ai pas pris ma retraite et je ne pense pas que je l'annoncerai un jour, parce que pour moi, c'est toujours un honneur d'être appelé en équipe de France. Si le coach a besoin de moi, je répondrai bien sûr présent et on verra de quoi l'avenir sera fait. Mais voilà, j'ai déjà eu énormément de chance et je me considère baigné encore une fois d'avoir pu réaliser mon rêve de gosse.
Ben voilà, il a jamais lâché l'affaire.
Ah non, il a jamais lâché l'affaire. Puis moi, j'aime bien parce qu'il est toujours d'un ton uniforme, avec effectivement beaucoup d'humilité, beaucoup de recul. Et même hier, je ne sais pas si vous avez vu aussi le bonheur de ses coéquipiers, le bonheur de ses adversaires.
Et le bonheur de Didier Deschamps aussi.
Ouais, qui sont tous venus le féliciter. Et quand il est arrivé dans le studio, on avait l'impression qu'il était comme à la fois soulagé, mais dans une espèce de moment de lévitation où tout était merveilleux. Mais moi, je pense que les 51 buts, il va les battre pendant cette Coupe du Monde, il va devenir le seul meilleur buteur.
Ah, on espère. Parce que sinon, ça veut dire qu'il marque plus jusqu'à la fin de la Coupe du Monde.
Et il avait marqué un seul but en 12 matchs de Coupe du Monde jusqu'à hier, et il en marque 2 en un match. Donc je pense que c'est un bon présage.
Il n'y a pas que les Bleus dans cette Coupe du Monde, Patrick.
Non, je vais plomber l'ambiance, je vais parler des droits humains au Qatar, puisque sur cette question, la FIFA a réussi à faire taire tout le monde, sauf les Anglais, genoux à terre hier, et les Allemands aujourd'hui, qui ont organisé une véritable rébellion contre la FIFA et son patron Infantino en 3 images. Un, Neuer et ses hommes qui miment un baillon sur leur bouche juste avant de jouer contre le Japon sur la traditionnelle photo d'équipe.
Voilà, on les voit.
Voilà, on les voit à présent. C'est l'image que tout le monde a vue dans le stade et la photo a été diffusée partout. Au même moment, en tribune officielle, la ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Fraser, installée à côté d'Infantino, enfile le brassard inclusif One Love avec l'arc-en-ciel. Bon, Infantino, on ne sait pas bien, il a l'air très réjoui, on ne sait pas bien s'il voit bien le brassard à ce moment-là, mais enfin la photo quand même est frappante. Ensuite, elle a mis une veste. Et puis, troisième temps, la diffusion par la fédération allemande d'un communiqué cinglant qui fait honte à toutes les autres fédérations, c'est-à-dire celles qui se sont couchées. Je cite, « Il ne s'agit pas d'un message politique, les droits humains ne sont pas négociables. Nous interdire de porter le brassard, c'est nous interdire de parler. » La FIFA, à l'heure où je vous parle, n'a toujours pas réagi à cette rébellion allemande, saluée par les Danois et par les Néerlandais depuis. Et les Français ?
Et vous ne plombez pas l'ambiance, au contraire, ce que vous dites est formidable, et ce qui s'est passé est formidable. C'est une formidable réponse à cet acte régressif auquel on a assisté.
Pourquoi en finir, nous ?
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont contourné justement les décisions de la FIFA, puisque la FIFA avait dit pas de brassard arc-en-ciel pour le capitaine, parce que s'il y avait eu un brassard carton jaune, donc ils ont respecté et ils l'ont contourné. Et
ma question, c'est est-ce que vous avez espéré un geste des Bleus hier ? En tout cas, moi, pendant les premières minutes, au moment des hymnes, au moment où les deux capitaines s'échangent les fanions, j'ai espéré jusqu'à la dernière minute ce geste-là. Est-ce que vous aussi, Patrick ? Est-ce que vous aussi, Denis ? Sincèrement, dans votre âme et conscience.
Moi, franchement, quand j'ai entendu et le président de la Fédération française de football et le capitaine Hugo Lloris, je n'imaginais pas qu'il y aurait pu y avoir un geste pour ce premier match.
Ah oui, ça ferme le truc.
Voilà.
Ouais. Patrick, votre âme et conscience, vous le...
Je trouve qu'il aurait été formidable qu'il y ait un geste, en effet. Et c'est quand même très étonnant que la FIFA ait cédé à ce point-là. Et c'est ce qui est... Parce qu'on a eu tous les débats autour de cette Coupe du Monde. Doit-elle avoir lieu, pas avoir lieu? Boycott, pas boycott? J'ai toujours dit que ce débat aurait dû avoir lieu il y a 10 ans, au moment de la décision.
Mais la donne a un peu changé.
Mais en l'occurrence, que les choses, au dernier moment, arrivent comme ça, les unes après les autres. Bon, la bière, c'est symbolique. Mm. Et encore une fois, c'est au dernier moment, mais c'est un symbole. Mais le brassard LGBT, ça veut dire beaucoup de choses. Mmh. Et ça, c'est quelque chose...
C'est pas uniquement LGBT, d'ailleurs. Hein. C'était contre toutes les discriminations. C'est important.
Oui, mais en l'occurrence, celle-ci était bel et bien visée. Et c'est ce caractère régressif qui, moi, m'inquiète. Ce caractère régressif qui n'est pas que là-bas, qui est aussi ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelque temps à propos de la remise en cause du droit à l'avortement. Et on sait que quand il y a la remise en cause du droit à l'avortement, ben, les droits des homosexuels sont menacés de très près. Et le problème, c'est que ce genre de geste ouvre des portes et que je ne veux pas faire des amalgames, mais enfin, ce qui s'est passé aux États-Unis, cette tuerie...
Mais dans une boîte de nuit. Non, c'était dans une boîte de nuit.
Oui, dans une boîte de nuit. LGBT.
Dans une boîte de nuit, oui, enfin, LGBT. Donc, je ne dis pas que les choses sont liées, mais en l'occurrence, ça ouvre des portes. En tout cas, c'est sûr c'est un sujet, un vrai sujet.
Est-ce qu'il va y avoir jurisprudence ? C'est surtout ça, maintenant. Mmh. Maintenant que, effectivement, les Anglais, les Allemands...
Les Danois sûrement.
D'abord, je veux dire merci à ceux qui nous font rêver, à ceux qui sont sur le terrain, et puis ceux qui commentent aussi, parce que ça nous fait un bien fou. Oui, moi, j'aurais aimé aussi que nos sportifs nous fassent encore plus honneur, qu'on en soit encore plus fiers. Mais pour donner le chemin, il faudrait aussi que nos politiques soient à la hauteur.
C'est-à-dire ?
Ce que vous avez vu tout à l'heure, il y a aussi des responsables politiques qui ont montré le chemin. Est-ce que nos responsables politiques l'ont fait ? Je ne sais pas, on a les liens avec le Qatar quand même, qui sont très très étroits et qui, moi, m'inquiètent, au-delà même de cette Coupe du Monde. Il ne faut pas que tout ça soit l'affaire d'une hypocrisie généralisée non plus.
Ça n'a pas commencé bien aujourd'hui, sûr. Ça a commencé
bien ancien.
Il y a longtemps.
C'est bien ancien.
C'est en 2010 que ça a été accordé, et avec l'approbation de certaines personnes autour.
Puis la question du Qatar, elle se pose pour le football.
C'était à l'époque de la présidence de Nicolas Sarkozy.
Elle se pose aussi dans tous les investissements de notre pays et pour lesquels on est beaucoup moins regardant. Ne soyons pas trop hypocrites non plus.
Pierre. Bien sur le terrain, il y a eu une époque, Patrick, où votre passion se jouait et se montrait sur le terrain, à une époque où vous auriez pu remplacer Benzema.
Il y a le coup franc.
Ben oui.
Il y a le coup franc. Parce que ce jour-là, il y a un coup franc. En fait, on est avec Michel Drucker pour une émission. Et on se dit, bon, on va faire quelques actions. Et puis on dit, tiens, on va tirer des pénaltys. Puis on tire les pénaltys à Joël Batz. Puis les pénaltys, je les ai mis. Et tous. Et donc il me dit, bon, ben, alors on passe vitesse supérieure, les coups francs. Et à un moment donné, il y a le coup franc. Donc, est-ce que vous avez les images du coup franc ?
Non, on n'a pas les images.
Évidemment, parce que vous vous illustrez.
On n'allait pas en plus passer les images du coup franc.
Le coup franc, je crois que c'est le plus beau geste de ma carrière.
Patrick, si on met le coup franc...
Ça va être à l'intérieur à la fin de l'émission.
Si on met le coup franc, il faut prendre l'avion pour le Qatar dès ce soir.
Pour le disque d'or, on les passe.
Denis, dans le mag, vous
parlez de...
vais le chercher. Denis, dans le mag, vous faites preuve de pédagogie pour parler au plus grand nombre de téléspectateurs et vous utilisez tous les moyens à votre disposition, notamment la réalité augmentée, grâce à laquelle vous vous êtes téléporté avant-hier dans le vestiaire de l'équipe de France et vous nous avez fait découvrir les secrets culinaires des Bleus.
La partie centrale de la table est réservée à l'alimentation avec quelque chose d'assez classique pour des sportifs de haut niveau. Regardez, par exemple, des noix de cajou, des fruits secs, des amandes et très important, des bananes. Mais pas n'importe quelle banane. Je vous explique tout. Il y a un kiné de l'équipe de France qui est arrivé avec une recette qu'il a empruntée au grand Giroud à l'époque où il était entraîneur de l'AJ Auxerre. Et Giroud, il estimait que les bananes, elles devaient être coupées en fines lamelles et dégustées comme ceci, car, d'après lui, on les digérait mieux.
Je ne savais pas que la banane coupée en morceaux...
Moi non plus.
Ça... Bah après, ça s'est coupé en morceaux là-dedans, non?
Ben oui, mais...
Pardon.
Vous savez, on a pris les informations...
Depuis hier soir, je coupe en morceaux.
Ah oui, là, des rondelles.
Ça se digère mieux, quoi.
Et vous allez vous téléporter souvent comme ça au Qatar?
Ah ben, on va le faire, et évidemment, dans la chambre d'un joueur. On va être dans la salle de musculation, dans l'hôtel, une salle de musculation absolument imposante. Ah ouais. Ouais, non, on va essayer de faire ça. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai rencontré des gamins qui étaient persuadés que j'étais allé tourner ça au Qatar. Donc ça veut dire que la technique est là. Mais ça, ça se tourne. On met du temps parce qu'il faut être vraiment au millimètre. Et le petit siège sur lequel je suis assis à la place de Kylian Mbappé, c'est un siège tout vert. Et il faut faire les bons gestes pour donner vraiment l'impression qu'on est à l'intérieur.
On y croit. Le max, c'est tous les soirs sur TF1 après les matchs. Ce soir, c'est Belgique-Canada. Qui sera sur TF1, et bien ensuite le MAG, et ensuite...
Et puis demain, Brésil-Serbie.
Le late d'Alain Chabat.
Ah oui.
Oh non, j'ai des nuits très agitées, moi.
Et demain soir, c'est Brésil-Serbie, avec l'entrée en liste du Brésil, et l'un des grands, grands favoris face à la Serbie, et ce sera évidemment encore sur TF1. Ah, on est là pour faire la promo.
Et là, on est sur France 5, et on me dit, dépêche-toi, il ne reste plus que 8 minutes d'émission, il y a le 5 sur 5 de Mathieu Béliard. On ne perd pas de temps.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Salut Mathieu.
La capitale ukrainienne sans eau ni électricité.
Oui, de nouvelles frappes russes à Kiev. Aujourd'hui, 3 personnes ont été tuées. Ce sont plusieurs villes du pays en réalité qui sont privées d'énergie. La Moldavie, voisine de l'Ukraine, également concernée par ces coupures. Hier, en visio, devant les édiles français réunis au congrès de l'Association des maires de France, Volodymyr Zelensky a demandé de l'aide pour empêcher à la Russie de jouer avec l'hiver.
Російський ракетний терор зруйнував майже половину нашої енергетичної інфраструктури. І ми знаємо, що Кремль поставив завдання далі бити по енергооб'єктам, щоб перетворити холод зими на зброю масового знищення.
Les mots des Ukrainiens, on qualifie de plus en plus souvent les Russes de terroristes. Et aujourd'hui, lors d'un vote quasiment 9 mois jour pour jour après le début de la guerre, le Parlement européen a qualifié la Russie, je cite, d'État promoteur du terrorisme ce matin dans la région de Zaporijjia, à 45 kilomètres du front. Une maternité a été détruite par une frappe russe, un bâtiment de 2 étages. Un nouveau-né de 2 jours a été tué, un bébé de 2 jours seulement. Ce qui rappelle évidemment le bombardement de la maternité de Mariupol le 9 mars dernier. Au total, ce sont 438 enfants qui sont morts depuis le début de la guerre, d'après le dernier bilan du procureur général ukrainien.
2 humoristes russes ont piégé le président polonais en se faisant passer pour Emmanuel Macron.
Et clairement, Vovan et Lexus, puisque c'est ainsi qu'ils se font appeler, Vovan et Lexus sont les nouveaux rois du canular. On va y venir. Le soir, vous vous en souvenez évidemment, le soir où un missile de fabrication russe est tombé du côté polonais de la frontière, on l'a raconté, mais vous imaginez très bien l'inquiétude, l'effervescence dans les cabinets diplomatiques. Eh bien ce soir-là, les 2 humoristes russes se sont fait passer pour Emmanuel Macron. Sans même se soucier de l'imitation, ils ont réussi à parler à Andrzej Duda, le président polonais. C'est une qualité téléphone assez médiocre, il y a les sous-titres, écoutez.
Emmanuel, you know, this is war. And I think that both sides will accuse another side of this war, yes?
I think that we don't need escalation between Russia and NATO. We don't need it.
Emmanuel, do you think that I want to have war with Russia? No, believe me, I don't want to have. Believe me, I'm extra careful. I'm talking only about Article 4. I don't talk about Article 5.
Il y en a 7 minutes comme ceci. Selon les officiels polonais, le président a fini par se douter de quelque chose et il aurait mis fin à la conversation. On imagine aisément la pagaille, le niveau de tension ce soir-là. Mais Vovan et Lexus sont loin d'en être à leur coup d'essai. Juste après l'attaque du pont de Crimée non revendiqué, vous vous en souvenez, ils avaient piégé le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, et lui avaient fait reconnaître à demi-mot que l'Ukraine frappe bien en Crimée. Il s'était fait passer pour un ancien ambassadeur américain à Moscou. Ils ont fait reconnaître à Dmytro Kuleba que l'Ukraine frappe bien côté Crimée, côté russe et du côté de la frontière, du côté de Belgorod.
Если, например, вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то, ну, в приватном общении, насколько оно в зуме может быть приватным, я вам скажу, что да, это мы. То есть в этом есть военная цель определенная.
Il ne s'attaque pas qu'à cette zone du monde. À l'écran, quelques-unes des nombreuses victimes des canulars de Vovan et Lexus, Elton John, George Bush, J.K. Rowling, Erdogan, ou même le prince Harry et Justin Trudeau qui, en se faisant passer pour Greta Thunberg à l'époque. Mais même Emmanuel Macron les connaît déjà. À peine Volodymyr Zelensky élu, c'était en 2019, il l'avait singé et reçu les félicitations de l'Élysée.
Большое спасибо вам за вашу поддержку и 73%. Я чувствую себя просто как Владимир Путин. У него такие же результаты.
Oui, mais j'ai le sentiment que, en tout cas, à ce stade, le système chez toi est un peu moins bien organisé. Donc ça doit être un peu plus naturel.
Вы абсолютно правы.
Tu n'avais pas encore mis tous tes opposants en prison.
Ça, c'était en 2019. Et pour tempérer et être précis, s'ils ne sont pas ouvertement politisés, on leur a trouvé des accointances avec le Kremlin, voire même avec le renseignement russe. Ils ciblent souvent des détracteurs de Poutine ou de sa politique.
Après Canton, la semaine dernière, de nouvelles révoltes chinoises contre les mesures de restrictions sanitaires.
Oui, nous sommes à Zhengzhou, au cœur de la Chine, et c'est toujours la politique zéro Covid qui coince auprès de la population chinoise. Et si vous ne connaissez pas Zhengzhou, sachez simplement que c'est la ville où se trouvent les usines Foxconn. Une partie des usines Foxconn, notamment la plus grande, celle qui fabrique le plus d'iPhone au monde, l'usine en elle-même qui a été confinée il y a quelques semaines, le complexe industriel où les salariés devaient rester, vivre, dormir, ne pas sortir. À l'écran, vous voyez des images de Chinois qui ont fui lorsque ces mesures se sont faites sentir, puis lorsqu'on a annoncé aux ouvriers que des cas positifs étaient dépistés. Après la fuite, on a vu des autorités débarrasser les chambres et les logements de ceux qui étaient partis, leurs effets personnels au sol, leurs affaires vraiment devenues déchets, jonchant le sol de la ville, le pied des immeubles. Et puis on a vu aussi des images de tensions ces derniers temps entre la population, les salariés et ces brigades en combinaison qui sont chargées partout en Chine de faire respecter la politique zéro Covid, les restrictions sanitaires. Tensions jusqu'à ce que cela dégénère complètement ces dernières heures. Alors, il y a la détresse des Chinois confinés de force, mais également la question économique qui se pose. Je vous le dis, c'est à Zhengzhou que l'on produit l'essentiel des iPhones vendus dans le monde. Cet après-midi, les affrontements se sont poursuivis, mais pour être très honnête, à l'heure qu'il est, il est difficile d'avoir des informations précises.
Oui, quand on pose la question au porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, évidemment, il botte en touche. Merci beaucoup Mathieu pour ce 5 sur 5. Merci Denis Brognard. Le MAG, on ne loupe pas, c'est juste après le match Belgique-Canada. Et c'est tous les... Non, après chaque match diffusé sur TF1. Patrick, on vous garde.
Avec plaisir.
Jusqu'à 20h55. Faites pas le surpris, hein. Vous savez.
Il n'y a pas de surprise.
Merci beaucoup Aurélien Pradier.
Merci à vous.
D'être venu ce soir.
C'est un plaisir.
C'est à vous. Patrick Boel nous parle de son 9e album.
J'espère bien.
Encore une fois. Frédéric Lenoir sera également notre invité du dîner. Il y aura un live. Les actualités de Bertrand, l'œil de Pierre et le vu. Voilà, j'ai fait le tour. À tout de suite, je vais me téléporter. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.